Une fleur dans un champ d'herbe, par Richard Keller, chapitre 23. Angot et le lieutenant sont seuls dans un bureau. Ce dernier demande s'il n'a pas quelque chose d'important à lui dire. L'autre répond qu'il ne comprend pas le sens de la question. Il rajoute qu'il a passé les fêtes de Noël dans sa famille, et qu'en dehors de cet aspect-là, il ne voit rien d'autre à raconter. Gilles lui parle du corbeau. L'autre précise que pendant son absence, il n'a pu suivre les péripéties de cet individu. Il n'en sait donc pas davantage. Il fait allusion aux haines et rancœurs que l'affaire suscite. Il va jusqu'à déclarer que des clans se sont formés au gré des différentes révélations. Le lieutenant veut voir si son subordonné se doute de la tournure que prend la discussion. Il le sollicite pour établir une liste des suspects. Il s'y plie de bonne grâce. Il couche sur le papier la plupart des récipiendaires de lettres anonymes. Tel le félin dissimulé en boule dans les hautes herbes, Gilles bondira le moment venu. Le comportement d'Angot l'estomac. Il agit avec un culot extraordinaire. Il a désigné comme possible coupable les personnes visées par le corbeau. La méthode ne manque pas d'originalité. Gilles considère que la plaisanterie a duré depuis suffisamment longtemps. Il passe à l'offensive. Il sort un dossier, ouvre la chemise cartonnée. Des feuilles découpées apparaissent. Angot devient blême. Il connaît bien le matériel que lui présente le lieutenant, qui lui signifie que maintenant il attend des explications sincères. Angot, effondré, lui explique que la mise en sommeil de la cellule l'a perturbé, et qu'il a imaginé ce moyen pour relancer l'enquête. Ils poursuivent l'entretien pendant plus de 2 heures. Gilles veut connaître toute la vérité sur cet aspect abject de son enquête. Il lui demande des explications sur des points précis abordés dans certaines lettres. Il y a parfois de l'exactitude, mais aussi beaucoup d'affabulation. À son tour, il questionne Gilles. Comment a-t-il découvert le poteau rose ? Il y a eu tout d'abord la lettre reçue par Eleanor Bolton. Nous avons convenu d'une discrétion absolue concernant les époux Bolton. Aucune information n'a été donnée. Dans son délire, le corbeau a évoqué Lyra. Seul un proche de l'enquête a pu avoir accès à ce renseignement. Je m'en suis aperçu rapidement. J'ai souhaité agir sans me tromper. Voilà la raison de notre rencontre actuelle. Ensuite, la guitare du docteur Lecoeur a confirmé mes doutes. Pour savoir que la corde qui se trouvait dans un sachet ouvert n'était pas neuve, il faut connaître le dossier. « Vous êtes certainement musicien, Angot, » demanda Gilles. Il opine. « Un musicien peut faire la différence en examinant la corde usagée. Pour trouver le coupable, c'est comme un puzzle. Il a suffi d'assembler les pièces. Ce ne pouvait être qu'une personne proche de l'enquête et qui connaissait bien le village. » Il subsistait vous, Buteau et accessoirement Cuchet. Ce dernier n'a pas vu la guitare du docteur Lecoeur. Il ne restait que 2 suspects. J'ai commencé par celui qui était absent. Et c'est vous. La fouille de votre studio a été rapide. J'ai vite compris que vous étiez dans le rôle du pompier pyromane. Angot, livide, l'écoute dérouler le fil du drame. Il sait que son comportement ne peut être sans conséquence. Il attend sans illusion que tombe la sentence. Gilles a mûrement réfléchi en amont. La nuit de la découverte, il n'a pas dormi. Il fait ce que sa conscience lui dicte. Sur un ton solennel, il s'adresse au fautif en lui proposant 2 alternatives. La première consiste à le mettre aux arrêts et d'alerter la hiérarchie. Avec la découverte du cadavre du pauvre Benjamin, vous discréditez gravement la gendarmerie. Le meilleur choix que je peux vous offrir est de donner votre démission pour raison personnelle. En attendant la prise d'effet, vous posez votre reliquat de congé en permission. Je souhaite que vous quittiez rapidement la région. Nous dirons que vous avez des gros soucis de santé dans votre famille. Si vous optez pour cette formule, je veux votre lettre dès demain matin sur mon bureau, ainsi que tous vos effets militaires. Angot, encore plus pâle, s'est décomposé. Il ne connaît qu'une seule façon de s'en sortir honorablement. Il le remercie et lui dit que demain tout sera réglé. Gilles passa une mauvaise nuit. Les cauchemars succèdent aux insomnies. Il revoit le film des dernières semaines. Il n'a pas trouvé Benjamin dans son linceul savoyard. Il imagine l'enfant au milieu de l'herbe putride. Il n'arrive pas à se défaire de cette vision. Dans ce paysage d'apocalypse, il se console du comportement des époux Léchins. Ils n'ont posé aucune question sur les circonstances de la découverte et sur l'état de conservation de leur garçonnet. Il se rendort sur le matin et se réveille peu avant 10 heures. Il prend une douche tiède et se dirige vers son bureau. Hormis le gendarme de permanence, les locaux ressemblent à un vaisseau fantôme. Il n'aime pas le vide et l'absence. Il salue le collègue présent et rejoint son poste de travail. Sur la table se trouve un carton fermé par un large ruban adhésif marron. Il subodore le contenu du paquet. Il s'approche davantage. Sur le dessus, une enveloppe blanche surplombe le tout. Une écriture inégale a marqué « Personnel » à l'attention du lieutenant Gilles. Il décachette l'enveloppe. Il lit la lettre et ne peut s'empêcher de laisser échapper un juron. Il met la missive dans sa poche. Le téléphone sonne. Un promeneur vient de découvrir une voiture écrasée au pied de la falaise. Elle est presque entièrement calcinée. Il semble que le conducteur soit décédé dans l'incendie. Gilles n'attend pas qu'une patrouille soit formée. Il part immédiatement en direction du pied de la falaise. Le texte que lui a laissé Angot ne permet aucune équivoque. Le corbeau s'exprime clairement. Il demande à son supérieur de la compréhension pour son geste. Il s'en remet à la conscience du responsable de cellule. Il espère que pour la gendarmerie et pour sa famille, une version moins accablante sera donnée. Pour le reste, il s'en remet à la justice divine. Lorsqu'il arrive sur les lieux, quelques badauds rôdent autour de l'épave et de son infortuné conducteur. Ils pensent tous à un accident. Aucun n'avance l'hypothèse du suicide. Jean-Paul Angot ne peut être reconnu. L'explosion du réservoir et l'incendie qui a suivi ont détruit toutes les parties non métalliques du véhicule. Le corps carbonisé semble minuscule. Seul le lieutenant sait ce qu'il en est. Lorsque ses collègues arrivent, il ne fait aucun commentaire. L'état de la voiture ne permet aucune identification immédiate. Il faudra effectuer des prélèvements sur la dépouille et relever le numéro gravé sur le moteur. Il les laisse travailler et retourne à son bureau. Il se saisit du carton, il l'emmène vers l'appartement de fonction qu'occupe Angot. Il ne croise personne. Il pénètre dans le logement et referme la porte doucement. Il examine chaque pièce afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'autres messages. Il ne trouve rien. Angot a laissé les choses en l'état. Il ouvre le carton, il met la tenue d'Angot sur un cintre dans la penderie et range les autres vêtements sur les étagères. Il met le revolver dans un tiroir en s'assurant qu'il n'est pas chargé. Il referme lui et rejoint son bureau. Il est plus de midi, la faim ne le tenaille pas aujourd'hui.